Cours de métaphysique par le père Marie-Dominique Philippe, le 21 mars 2002 à Saint-Jeudard.
C'est le dernier cours de métaphysique du semestre. Ça reprendra après, si Dieu prête vie. Mon père, que voulez-vous dire concrètement quand vous parlez d'assumer son corps ? Je constate en effet que deux tendances se dégagent par rapport au corps. Ceux qui en font le culte en idolâtrant et ceux qui, en réaction, le rejettent pour l'exaltation de l'esprit. C'est juste. On a ces deux tendances. Et on a ces deux tendances qui s'expriment même dans deux philosophies différentes. La philosophie de Platon, le platonisme. Au moins le platonisme dans le moment où il règne. Parce que Platon, à la fin de sa vie, est-ce que c'est sous l'influence d'Aristote ? Peut-être. Parce que Aristote a eu une influence sur Platon beaucoup plus grande, je crois, que ce qu'on pense. Mais au moins le premier platonisme. Et au contraire, le fait de considérer le corps comme étant spirituel, on aurait ça dans toutes les philosophies contemporaines, qui ne veulent plus la distinction de l'âme et du corps, et qui par le fait même exaltent le corps. Remarquons que la deuxième tendance naît et se développe très souvent en milieu religieux. Pensons aux extrêmes. Exultation islamique à ceux qui poussent très loin le jeûne chez les hindouistes. Oui, supprimer le corps, faire que le corps s'amincit et devienne une dentelle. C'est la tentation. Vous pouvez porter des vêtements extrêmement légers de soi. Et alors, c'est la même chose pour le corps. Faire que le corps soit de plus en plus léger. Tandis qu'un corps poussant, ça c'est lourd. Ça pèse. Au-delà de ces deux tendances, comment assumer son corps sans en faire un culte et sans le refuser. On dit que l'âme est unie au corps substantiellement. La réponse est ça. Aucune des deux autres tendances dit ça. Alors, ça a été déjà dit en philosophie du vivant. C'est pour ça que je ne vais pas insister beaucoup. En philosophie du vivant, l'âme est principe propre, formel, du corps. Donc il y a une unité substantielle. Ah, ça, c'est unique. Unité substantielle. Et assumer le corps, c'est du côté finalité. C'est pour ça que la philosophie thomiste a surtout insisté sur la cause formelle. On a surtout vu le point de vue l'âme forme du corps. C'est très juste du reste, l'âme est forme du corps. Donc il y a une entité substantielle qui est l'âme et le corps. Ça ne va pas aller plus loin. Vous voyez, dans ces deux tendances extrémistes, vous faites du corps un accident. Alors un accident, la quantité est un accident. Alors vous pouvez éviter d'être trop gros, de vous amincir, pour que ça devienne de la dentelle. Comme les dentelles des Bretonnes, des dentelles merveilleuses. Alors on voit très bien la quantité. Il y en a qui sont pour peser 110 kilos. Le corps n'existe que quand il dépasse 100 kilos. Puis ceux au contraire qui veulent que le corps soit très mince. Alors, il y a du plus et du moins, tandis que âme, substance et le corps, substance, il n'y a pas du plus et du moins. C'est une réalité substantielle. Et j'insistais beaucoup en disant le conditionnement substantiel pour bien montrer que ça s'enracine sur l'unité substantielle. Il ne faut pas oublier ça. C'est présupposé connu ici. Parce que la philosophie du vivant est présupposée connue. Et c'est en philosophie du vivant qu'on insiste beaucoup sur l'unité substantielle de l'âme et du corps. Et c'est ce qui est original dans la pensée d'Aristote. Face à Platon, sa grande originalité pour l'âme, c'est de montrer qu'elle est forme substantielle du corps. Si elle est forme substantielle du corps, elle joue un rôle par rapport à la finalité. Ah, c'est là où c'est très délicat. Parce que la substance peut être fin, normalement. Aristote dit ça pour l'âme. Il dit elle est formée fin. Telos. Tandis que le corps est uni substantiellement à l'âme, mais il n'est pas fin. On ne fait pas du corps ma finalité. Mais comme mon âme est unie substantiellement au corps, je ne la mets pas comme accident. Donc vous voyez, c'est le rôle exact de l'âme dans la personne humaine, où la finalité est regardée directement. Je ne peux pas parler de la personne sans voir la finalité. C'est tout un problème de finalité. C'est le comment de ma vie finalisé par cette recherche de vérité et cette recherche de Dieu dans ma vie. Cette recherche de l'ami dans ma vie. Alors vous voyez, cette question-là est très intéressante. Parce que c'est de montrer bien par rapport à la finalité. Comme l'homme a deux finalités, une immanente et l'autre transcendante, finalité divine, elle transcende. Finalité humaine, l'amitié. Il y a une immanence dans une transcendance. L'ami est un bien immanent et transcendant. C'est pour ça que c'est si difficile. Plus j'aime l'ami, plus je le respecte dans sa finalité propre. Mais je ne le mange pas. et le ramener à l'immanence. Alors, quand on dit d'assumer son corps, c'est par le point de vue de la finalité. C'est le problème propre de la personnalité. Je ne peux pas parler de la personne humaine sans regarder la finalité de l'homme. Et dans le fait d'assumer, dans le fait de regarder la finalité, je vois tout de suite que mon corps n'est pas ma fin. Si je fais de mon corps une fin, je l'idolâtre. Mon corps n'est pas une fin. Et ceux qui sont en réaction dialectique contre ça, justement, essaient d'amenuiser le corps le plus possible. Et pratiquement de refuser. Il ne faut pas refuser le corps, il faut le regarder comme une... Alors c'est ça qu'on avait dit, comme une modification essentielle à ma vie. Mais il est assumé, c'est-à-dire dépassé. Le terme « assumé » veut montrer qu'il est dépassé, qu'il n'est pas la fin de mon âme, mais qu'il est un conditionnement substantiel. Je crois que c'est le terme qui convient le mieux, de dire un conditionnement, il conditionne toute ma vie, mon corps. Ça, c'est sûr. Il conditionne toute ma vie, il conditionne ma démarche, ma marche. Il conditionne mon sommeil, il conditionne tous mes repas, évidemment. Ils sont même quelquefois finalisés à cause du corps. Quand je tarde trop, hein. Heureusement que le carême est là. Parce que pendant le carême, hein, on dit à la bête, hein, conditionnement, pas plus que ça, ne monte pas ta tête. Le carême est fait pour ça. Il est, au point de vue sainteté, il est très utile, et au point de vue santé, il est très utile. Parce que pendant un certain temps, on est obligé de museler l'animal. Alors qu'autrement, il a toujours envie de manger. Donc, ben, carrément, fais attention. Il met un museau particulièrement serré. Alors, c'est le conditionnement substantiel. C'est ça que ça veut dire, conditionnement substantiel. Il n'est pas finalité, mais il est toujours présent. Vous ne pouvez pas mettre le corps au cachot disant « je n'en occupe pas ». Non. Je m'en occupe tout le temps, mais conditionnement substantiel, conditionnement, c'est-à-dire non-finalité, je le dépasse toujours. Et pour montrer que je le dépasse toujours, je dis que je l'assume. Dans ce conditionnement, je l'assume. Il est compagnon de ma vie, c'est évident, compagnon substantiel. Je ne peux pas le laisser de côté. Et il faut que je le considère vraiment comme ce compagnon substantiel de mon âme, mais qui n'est pas fin. Mon corps ne finalise pas ma vie, ni dans l'amitié, ni dans la contemplation de Dieu. Alors, si je veux préciser, je préciserai le conditionnement dans l'amitié et le conditionnement dans la contemplation. Le conditionnement il n'est pas le même. Hein. Le conditionnement dans l'amitié, il fait partie essentielle de l'amitié. Une partie essentielle, mais conditionnement, pas finalité. Le jour où votre amitié est finalisée par votre corps, vous tombez tout de suite dans l'amitié de jouissance. Et vous tombez dans tous les travers de l'homosexualité. Qu'est-ce là, hein ? C'est considérer le corps comme substantiel, comme finalité. L'erreur dans toutes les fins de civilisation, c'est connu ça. Dans toutes les fins de civilisation, l'homosexualité s'intensifie. C'est une dégradation. Parce que le corps est devenu substantiel. Alors, il fait partie essentielle et substantielle de l'amitié. Ce qui est faux. Parce que dans l'amitié, j'aime dans l'ami ce qu'il y a de plus grand, de plus beau, son intelligence et son cœur. Et c'est pour ça que je peux aimer un infirme d'amitié. C'est son cœur spirituel et son âme spirituelle. Vous voyez, et c'est très signe de fin de civilisation de voir que l'homosexualité est considérée comme normale. C'est une civilisation qui dégringole. Alors, ça, c'est montrer que, de fait, le corps fait partie essentielle de l'amitié. Qu'il la spécifie, qu'il la détermine. Tandis qu'autrement, dans la véritable amitié, on sait que le corps est présent, c'est évident. Physionomie de l'ami, ça joue. Je me souviens cette réaction qu'on m'avait racontée de quelqu'un qui c'était la guerre d'Indochine. Un jeune officier que je connaissais bien, qui avait emporté pour l'Indochine uniquement Saint Thomas d'Aquin. C'est pas si mal, hein, comme officier. Et alors, il aimait énormément ses hommes. Et il était officier de la Légion étrangère. Voilà, vraiment, il a un amour très grand pour ses hommes. Et c'est pour ça qu'il avait voulu être officier de la Légion étrangère. Alors, il aimait travailler avec ses hommes, être avec eux. Et donc, quand il travaillait, il envoyait ses galons, et il était avec les hommes. Alors, le colonel passe, et il lui fait une réflexion. Alors, à quoi va-t-on reconnaître l'officier ? Elle a répondu, à sa gueule, capitaine. Et enfin, ces canons. J'ai trouvé ça très joli. Je le connaissais. Parce que c'est très philosophique. L'officier se trompait. C'est pas les galons qui font l'officier. Quand l'officier se distingue uniquement par ses galons, pauvre type. Quand il se distingue par toute sa tenue, et donc sa figure, sa gueule. Alors à ce moment-là, oh, voilà. Et ça montre bien la place du corps dans l'amitié. Parce qu'il faisait ça pour être proche de ces hommes. Et c'est très beau ça, très significatif. Donc, lorsqu'il s'agit de notre vie d'amitié, le corps est présent. Alors, cette présence du corps, c'est parce que le corps est animé de l'âme. Le corps est transformé par l'âme. Mais l'amitié n'est pas déterminée par le corps. Par la finalité. Et ma finalité, elle n'est pas dans mon corps. Elle est dans cette communion, cette koinonia, qui existe entre les amis. Et lorsqu'il s'agit de la contemplation, le corps est moins encore présent. Il est présent dans l'amitié et dans la contemplation, il n'est pas présent, puisqu'il est dépassé. Donc, il est assumé. Dans la présence, le corps est assumé pour être présent, mais pas fin, pour être présent. Donc, le conditionnement par les gestes, la physionomie, tout. Et c'est pour ça que c'est important de montrer cela, parce que c'est différent dans la personne de l'ami et la personne de l'ami dans la contemplation. Alors je crois que ça fait bien comprendre comment le corps est assumé de deux manières très différentes dans l'amitié et dans la contemplation. Dans la contemplation, il est dépassé, donc il est assumé étant dépassé. Et dans l'amitié, il est assumé, mais immanent. Et quand on dit que le corps est assumé, donc qu'il conditionne substantiellement, on montre que son conditionnement est toujours présent, puisqu'il est substantiel. Mais ce conditionnement est différent dans l'amitié et il est différent dans la contemplation. Dans la contemplation, il est vraiment dépassé. Dans l'amitié, il n'est pas dépassé. Il y a une présence du corps dans l'amitié. Assumer, je conviens très bien, à des niveaux différents. Il est assumé dépassé, il est assumé présence immanente. Alors, nous terminons en reprenant dès le point de départ ces différents éléments de la personne. Puisque après la résurrection du Seigneur, qui est la nôtre, après la résurrection, après Pâques, on regardera les diverses modalités de la personne. parce que la personne est une réalité concrète. Elle est saisie par le philosophe, donc en profondeur, dans son enracinement substantiel, mais elle a des modalités différentes. Nous verrons ça. Ici, nous avons essayé de saisir ce qui est essentiel à ce conditionnement personnel. C'est-à-dire l'étude du comment. Comment une personne humaine conditionne toutes mes activités. Bon, c'est le sujet tout à fait particulier. C'est le je personnel qu'on étudie. Alors, ce conditionnement implique des aspects très différents. Donc, j'ai pris 6 aspects différents parce que je crois que il y a 6 modalités et qu'en réalité il y en aurait une 7e. Ayant découvert l'existence de Dieu, j'ajouterai la 7e qui est la personne religieuse, l'aspect religieux qui fait partie essentielle de la personne. Mais elle implique, au point de vue études philosophiques, métaphysiques, elle implique la découverte de l'existence de Dieu. La découverte de l'existence de Dieu que le chrétien a tout de suite par sa foi, que l'homme découvre progressivement. La découverte de Dieu au point de vue philosophique se fait progressivement. Et progressivement, je comprends qu'il y a une 7e dimension de la personne humaine. Autrement dit, dans la recherche philosophique, dans la recherche métaphysique, ayant découvert les 2 grands principes de cet être particulier qui est l'homme, l'être le plus parfait que j'expérimente. Je n'ai jamais expérimenté un être plus parfait que l'homme. Si vous, vous l'avez expérimenté, vous me le direz. Une expérience directe. Dans cette expérience directe de l'homme, je peux étudier ses principes au point de vue de l'être, sa substance qui est son âme et son corps et sa finalité dans l'amitié. Où j'étudie là l'être en acte. L'être en acte est le point de vue de l'ayance de la fin. Le toti ennaina. L'ayance en la fin. Autrement dit, la finalité est toujours prise de 2 manières. La finalité extrinsèque, la fin est toujours quelque chose qui me transcende, et le fait d'atteindre ma fin qui me finalise et qui me permet de m'accomplir. Je ne suis parfait que quand j'atteins ma fin. Tant que je n'ai pas atteint ma fin, je ne suis un être qui désire. Je peux ensuite, et c'est ce que la scolastique ne faisait pas, et je dois le faire, je peux ensuite regarder comment l'homme vit de sa substance et de sa fin. Il la vit d'une façon originale, comparativement à la vache, comparativement à l'éléphant, comparativement à l'araignée. Le comment vit une araignée, ça ne m'intéresse pas tellement, sauf si je suis piqué. Comment vit la vache, ça ne m'intéresse pas tellement. Point de vue philosophique, hein. Je ne parle pas au point de vue économique, au point de vue philosophique. Oui, parce qu'avoir un troupeau de 1000 vaches, c'est intéressant. C'est assez particulier. Un troupeau d'éléphants, c'est encore plus particulier. Mais c'est moins l'avoir. Et le seul être qui m'intéresse au point de vue du comment, c'est moi. Ça m'intéresse. Toute ma philosophie est faite pour étudier ma finalité, mais le comment de ma finalité, comment j'atteins cette fin. Et donc, je suis à un niveau concret dans le comment. Et ceci est d'autant plus nécessaire qu'Auguste Comte a supprimé le tiesti, les principes propres de la philosophie, pour ne voir plus que le comment. Et à partir de là, la psychologie est née. Et la psychologie n'étudie que le comment, sans étudier les principes. Et elle est née à partir de ça. Et c'est normal. Et si la psychologie est née à partir de la négation de la finalité, la négation de la substance, pour voir le comment de l'homme, il faut que le philosophe, après avoir étudié la substance et l'acte, comme la cause formelle et la cause finale de l'être, regarde dans l'être le plus parfait qu'il expérimente, c'est-à-dire lui-même et son ami. C'est le POS. Essaye d'étudier dans la lumière des principes propres de l'homme comment l'homme peut-il atteindre sa fin. La fin de l'homme est personnelle. Elle est à deux niveaux. Au niveau amitié, et au niveau contemplation. Au niveau amitié, c'est ce que nous étudions avant d'avoir découvert l'existence de l'être premier. Dès que je découvre l'existence de l'être premier, il y a au plus intime de ma vie quelque chose de nouveau. Le comment de ma vie est différent. il est totalement différent dès que je découvre l'existence de Dieu. Mais avant cette découverte, je peux et je dois le faire, de découvrir mon comment humain, que je découvre parfaitement dans l'amitié humaine. Étudier ce comment, ce n'est pas étudier les principes, c'est étudier les différents éléments qui composent ce comment. Ce n'est pas la même chose. Étudier les éléments de ma personne. Premier élément que je découvre, c'est l'autonomie. Une personne n'est pas l'esclave. L'esclave dépend du maître. Et c'est une manière de vivre en esclave qui n'est pas entièrement humaine. Puisque vivre humainement, c'est vivre maître de sa vie, comme une personne humaine. Et donc, premier élément, l'autonomie. Je suis un être autonome. Et dans cette autonomie, je vois le rayonnement de l'âme. Principe premier et propre de ma vie, qui me donne une autonomie radicale auprès de la vie. Cette autonomie se va se traduire dans une vie du développement de l'intelligence, la recherche de la vérité. Sans recherche de vérité, il n'y a pas de personne. C'est terrible ça, hein ? Parce que qu'est-ce qui cherche la vérité ? Au moment des élections, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de recherche de vérité. Donc, il n'y a pas de personne humaine. Le développement de mon autonomie se fait d'abord par mon intelligence, recherche de la vérité. La recherche de la vérité développe en moi une possibilité d'aimer. Une personne humaine dans l'amitié. Le développement donc de l'amour et de la liberté. Car l'ami, je le choisis. Et je le choisis librement. Donc, troisième élément de la personne humaine, c'est l'amour. Il y a un amour spirituel qui se réalise dans ce choix personnel. Pour choisir quelqu'un comme ami, il faut être soi-même capable de se gouverner. Si je ne suis pas capable de gouverner ce que je suis, je ne peux pas prétendre à aimer quelqu'un. Je serai quelqu'un qui s'accrochera à lui, mais qui ne l'aimera pas vraiment. Et donc, le quatrième élément absolument nécessaire à la personne, c'est la prudence. La vertu de prudence qui s'acquiert, qui me permet de me gouverner. La première personne que je gouverne, c'est moi-même. Et tant que je suis gouverné par un autre, je n'ai pas de personne, je n'ai pas de personnalité. personnalité, c'est d'avoir choisi une orientation de vie et d'avoir choisi un ami qui m'aide à l'orientation de ma vie. Le cinquième élément, c'est l'art. Parce que lorsque j'ai choisi une orientation dans ma vie, je vois très bien qu'il faut avoir orienté ma vie, d'avoir créé autour de moi un milieu qui m'aide, qui me soutient. Créer ce milieu, c'est le point de vue du facere. Je domine autour de moi et j'incline tout ce qui peut être un rayonnement de ma propre personnalité. Ce rayonnement va plus ou moins loin et il est différent selon les diverses personnalités. C'est peut-être là où la diversité est la plus grande. C'est dans le facere. Il y a une diversité très très grande dans les personnes humaines. Et enfin, je vois que mon corps est un conditionnement substantiel. C'est mon premier milieu, inséparable de moi. Ce milieu a commencé par être très petit dans le sein maternel. Il a été très conditionné par le sein maternel. Il a été très conditionné par tout l'atavisme et le milieu familial. Il a une importance capitale. Et puis, progressivement, je me suis libéré, en partie, jamais totalement, de ce premier milieu. Je reste toujours l'enfant de mes parents, le fils de mes parents, la fille de mes parents. Mais je me suis formé progressivement et j'ai modifié autour de moi le milieu de mon corps, premier milieu, facere à l'égard de mon conditionnement. Je me suis affranchi de ce milieu, m'en suis libéré. Au début, il fait partie de tout ce qui me conditionne, et petit à petit, il devient ma gloire. Je crée un milieu pour me libérer le plus possible de ce conditionnement. Mais il reste toujours un conditionnement que je porte en moi. Mon corps fait partie de ma personne, conditionne ma personne. Donc, vous voyez, cette recherche philosophique qui ne s'est absolument pas faite dans la scolastique. Alors, comme si ça ne s'est absolument pas fait dans la scolastique, ça s'est fait en dehors, dans tout le point de vue de la psychologie. Aujourd'hui, la recherche de la personnalité, c'est psychologique. alors que la recherche de la personnalité doit être métaphysique et philosophique. Parce que, au point de vue psychologique, vous ne cherchez que le conditionnement extérieur, visible et intérieur aussi, c'est sûr, mais votre conditionnement, vous ne saisissez pas votre finalité. La psychologie s'est développée indépendamment de la finalité, parce qu'il n'y avait pas de métaphysique. C'est la métaphysique qui détermine ma finalité, et qui peut seule déterminer la finalité. Finalité première, l'amitié. Finalité la plus radicale, la plus profonde, première au point de vue découverte, au point de vue de mon conditionnement, tandis que la première, c'est la contemplation de Dieu. Et pour cela, il faut avoir découvert l'existence de Dieu. Alors, comme cette découverte de l'existence de Dieu est une chose très difficile, je peux m'appuyer sur les traditions qui me donnent tout de suite une finalité qui me dépasse, celle de l'existence de Dieu. Mais m'appuyer sur la tradition, c'est quelque chose qui, au point de vue philosophique, doit être dépassé. Parce que la tradition, c'est le point de vue historique du devenir humain. Ma petite tradition. Puis la grande tradition, au point de vue religieux. Mais les petites traditions sont très importantes, parce que c'est un support affectif qui existe tant que je n'ai pas moi-même, par moi-même, découvert l'existence de Dieu. Vous voyez que cette partie de la philosophie, de la métaphysique, est très importante. Parce que je crois que tant que je n'ai pas découvert ma personne humaine, je ne peux pas découvrir l'existence de Dieu. Comme personne. On a voulu découvrir l'existence de Dieu uniquement au point de vue de l'être. Mais comme l'être, je n'ai pas une connaissance absolue de l'être, seulement analogique. C'est très difficile, à partir de ma connaissance de l'être, découvrir l'existence de Dieu. Tandis que ma connaissance de la personne humaine est une connaissance beaucoup plus riche, elle est analogique aussi, mais elle est beaucoup plus riche, et la finalité est beaucoup plus forte. Quand je saisis ma personne humaine, point de vue de l'amitié. Et c'est pour cela que je crois que l'existence de Dieu, la découverte de l'existence de Dieu ne peut se faire qu'à partir de ma personne humaine. Et ma personne humaine ne peut se découvrir parfaitement que dans l'amitié. Il y a donc l'ami, on est à deux à découvrir l'existence de Dieu. Je ne découvre pas l'existence de Dieu personnellement. Je parle au point de vue philosophique. Personnellement, à partir de l'être, je découvre l'existence de Dieu à partir de la finalité. Et cette finalité, je la comprends, j'en vis à partir de l'ami. Et nous sommes donc deux à découvrir l'existence de Dieu. Je dois maintenir que l'être me conduit à l'existence de l'être premier, mais je dois immédiatement dire que cette connaissance de l'être étant tellement pauvre, c'est vrai, analogique, que j'ai besoin de mon ami et de la découverte de l'amitié pour découvrir qu'il existe vraiment un être premier. Mon ami me finalise, mais ne peut pas me finaliser totalement. Il est limité. Et la limite de mon ami me fait comprendre ma propre limite. Et l'ami me fait comprendre aussi ce qu'il y a en moi qui dépasse cette limite. Elle est dépassée par l'ami, et elle est dépassée par moi-même, grâce à l'ami. Et je peux par là découvrir l'autre, transcendant mon amitié, mais présent dans mon amitié.